RFI. Grand reportage.
Les temps sont durs pour les fermiers américains, victimes d'inondations exceptionnelles et de guerres commerciales. La dette des exploitants agricoles devrait continuer à grimper cette année et rien ne permet d'assurer que l'immense marché chinois redevienne rapidement accessible. Pour compenser en partie leurs pertes, la Maison-Blanche a octroyé une enveloppe de 28 milliards d'aides aux agriculteurs étalée sur 2 ans. La profession a massivement voté pour Donald Trump en 2016, mais certains commencent à s'interroger. Guerre commerciale, les fermiers en première ligne. Un grand reportage dans le Minnesota d'Anne Corpé.
Nous entrons dans un petit restaurant au bord de la route vers Byron, dans le sud du Minnesota. La branche locale du syndicat des fermiers, plutôt proche du Parti démocrate, organise sa convention dans l'arrière-salle.
Les fermiers sont dans une situation très périlleuse en ce moment. On est dans une crise financière. On est au bord du gouffre et la politique du président nous y précipite.
Gary Wertisch préside le syndicat dans le Minnesota.
Le maïs et le soja sont les cultures dominantes au Minnesota. La guerre commerciale a vraiment affecté les prix du soja. Et en ce qui concerne le maïs, l'Agence de protection de l'environnement a accordé des exemptions aux raffineries à la loi sur les énergies renouvelables aux États-Unis, qui prévoyait que 57 milliards de litres d'éthanol soient introduits dans notre système de distribution d'essence. Donc on a là deux secteurs qui déterminent pour une part énorme aux conditions économiques des fermiers. La politique actuelle du président nous inflige des dommages vraiment sérieux. Ensuite, on l'entend dire qu'on est en train de gagner. Mais sur le terrain, on ne gagne pas. Les fermiers perdent. Je pense que les fermiers, même ceux qu'ils soutiennent, commencent à perdre patience. Je pense qu'il va perdre ses soutiens.
Mais un récent sondage montre que les fermiers continuent à soutenir massivement Donald Trump.
Oui, c'est vrai, ce soutien baisse un peu, mais il est toujours là. Et je pense que ça vient du fait que les fermiers sont des gens très stoïques, très indépendants. Certains refusent peut-être de reconnaître qu'ils ont fait une erreur, mais ils doivent regarder sérieusement l'état de leurs finances.
Harold Willey, exploitant à proximité de Byron.
On est doublement pénalisé par la guerre commerciale parce qu'on subit les bas prix de nos produits. Et si on investit dans du matériel agricole neuf ou des silos qui sont en acier ou en aluminium, on les paye plus cher à cause des taxes imposées sur ces matériaux quand ils sont importés. Donc c'est la double peine. Et je connais un certain nombre de gens qui n'aiment pas la manière dont cette administration mène la guerre commerciale.
Même s'ils ont reçu des compensations,
on les apprécie, mais ce n'est pas une stratégie à long terme. Ce n'est pas ce que l'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est commercer, pas être aidé.
Hey, nice to meet you. I'm Brian.
I'm Anne. Ann.
Hi. Adam? Yeah. We're a good spot.
Le bureau des producteurs de maïs du Minnesota se trouve près de Minneapolis, la plus grande ville de l'État. Brian Tallman préside l'association.
Perfect.
La politique ne nous aide pas, l'agriculture ne se porte pas bien, les choses se dégradent et se dégradent rapidement. Et plus on mettra du temps à retrouver une position commerciale équilibrée, plus le chemin sera long pour récupérer nos marchés. Le marché de l'éthanol se préparait à une croissance significative. La Chine vise 10% d'éthanol dans son carburant et ils sont en train de s'approvisionner. Les États-Unis devaient prendre une grande part de ce marché, mais cela n'arrive pas. D'autres pays prévoyaient d'acheter américain, mais ils attendent, ils n'aiment pas cette incertitude.
L'association des producteurs de soja du Minnesota est dirigée par Joe Smentek, inquiet lui aussi.
Nous sommes le troisième état du pays en termes de revenus et de surface cultivée. On a un très bon produit, un soja de haute qualité produit ici. Cela représente des milliards de dollars chaque année dans l'économie du Minnesota. Donc on a vraiment hâte que cette guerre commerciale se termine. On a été visé par les mesures de représailles parce qu'on exportait massivement en Chine, donc on est pris en tenaille. Et si on perd ce marché, cela va vraiment faire mal. On explore de nouveaux débouchés, mais cela va prendre du temps pour les développer. Vraiment, si la bataille commerciale ne s'achève pas bientôt, on va commencer à voir les exploitations disparaître.
Nous retrouvons Trish et Brian Rumstall dans un restaurant de Mankato. Leur santé est fragile, Brian est diabétique, ils sortent de chez le médecin. Leur petite exploitation est au bord de la faillite.
Les petits exploitants comme Brian et moi, on se débat financièrement. Les prix ne nous permettent pas de faire tourner notre ferme. Les frais de santé prennent un tel pourcentage de nos revenus qu'il ne nous reste plus rien pour notre exploitation.
Vous et votre famille, vous êtes dans le secteur agricole depuis des années. Ce n'est pas la première fois que vous faites face à des temps difficiles. Qu'est-ce qui a changé cette fois ?
La dernière fois qu'on a été confronté à une période exceptionnellement difficile, notre couverture maladie n'était pas si astronomiquement élevée. L'année dernière, je crois qu'on a dû sortir $41,000 de notre poche. Au lieu d'améliorer la loi Obama sur la couverture maladie, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la détruire. C'est pour cela que les coûts ont explosé de cette manière.
Beaucoup de nos voisins ont arrêté de se soigner et certains ont quitté leur ferme et sont retournés travailler en ville chez un employeur, simplement pour bénéficier d'une assurance maladie. Le bas prix de nos cultures est le plus gros problème. Il n'y a pas un problème, mais une multitude qui s'accumule au même moment.
Et vous parlez de Donald Trump avec vos voisins fermiers qui le soutiennent?
Cela peut être compliqué, mais ils ne le soutiennent plus aussi ouvertement. Ils pensaient que c'était vraiment un type bien qui disait ce qu'il pensait, mais maintenant ils commencent à réaliser qu'il ne se préoccupe pas du tout du peuple américain.
This is Ted.
Oh, gosh. Is he there right now listening?
Yes.
Le téléphone sonne sans arrêt chez Ted Matthews, psychologue. Il travaille uniquement avec les agriculteurs aux frais du contribuable. L'État du Minnesota vient même de voter le financement d'un second poste pour l'aider à faire face à la demande.
L'État du Minnesota a financé ce programme pour que les fermiers n'aient pas à payer. Ils peuvent m'appeler et me parler 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure et c'est gratuit. Les jours très calmes, je reçois 10 appels et les jours chargés, j'en reçois 20 ou 25. Ils sont tellement stressés qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un. Le taux de suicide est très élevé et les fermiers sont généralement isolés.
Est-ce que vous avez constaté une augmentation du stress avec les tweets du président, avec la guerre commerciale? Cela affecte directement la communauté?
Oui, c'est parce qu'ils sont déjà soumis à un incroyable niveau de stress. Cela frustre les fermiers d'entendre une chose et d'en constater une autre, d'entendre toutes ces promesses qu'on leur fait pendant que leurs exploitations périclitent. Et ils sont en colère parce qu'avec le stress vient la colère.
With stress comes anger.
Juste en face du bureau de Ted Matthews, le psychologue dédié aux agriculteurs, se trouve la Mid Country Bank. C'est une banque spécialisée dans les prêts accordés aux fermiers.
Je suis Kelly Winter. On a principalement affaire à des producteurs de maïs et de soja.
Quelle est leur situation financière en général en ce moment?
Beaucoup de nos fermiers se battent actuellement à cause des prix bas des cultures et de leurs dépenses qui restent fixes pour produire. On a fait beaucoup d'opérations de rééchelonnement de dettes ces derniers temps. On ajoute leurs pertes à leurs dettes et on a étendu leurs emprunts sur une vingtaine d'années pour essayer de diminuer leur remboursement. On a commencé à faire cela il y a 3 ans.
Et vous le faites de plus en plus?
Oui, et le problème en ce moment, c'est que certains de nos fermiers ont déjà fait ça, et cette année, ils ont encore des pertes, et donc on n'a plus d'options pour financer leurs opérations. Certains ont abandonné, d'autres ont été contraints de suspendre leur activité. On ne peut pas continuer à financer des opérations qui ne seront pas profitables, car ce ne serait pas leur rendre service.
On est près de Mankato, dans le Minnesota. On longe des bois, mais surtout des grandes plaines cultivées, beaucoup de maïs et de soja. On arrive dans la ferme, il y a des grands silos à grains qui sont là, des hangars. Warren Krohn est derrière sa grange en train de transborder son maïs dans un camion destiné à l'usine d'éthanol toute proche. Mais le prix de l'éthanol et donc du maïs qui sert à le fabriquer est au plus bas.
Ils ont accordé aux raffineries 4 milliards de dollars avec leurs exemptions. L'industrie du pétrole a toujours bien gagné de l'argent. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de cet avantage. Tandis que dans l'éthanol, on a investi parce qu'on nous a dit qu'on aurait toujours ce débouché. Et maintenant, ils nous en privent. Ce n'est pas une bonne manière de gérer les choses de la part du gouvernement.
La plupart des fermiers du Midwest ont soutenu Donald Trump en 2016. C'est votre cas ?
Oui, j'ai voté pour Trump et sur ce qu'il fait avec la Chine, je suis 100% derrière lui.
Vous êtes à 100% derrière lui, mais en même temps, vous souffrez des exemptions qu'il a accordées à l'industrie pétrolière et de la guerre commerciale aussi, je suppose.
Oui, et je sais que cela va nous coûter, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour l'Amérique. C'est notre pays. Si on continue à faire ce qu'on a fait dans le passé, on va avoir des problèmes. La Chine va s'en prendre à nous de toutes ses forces. Ils essayent de mettre la main sur notre réseau Internet, sur nos téléphones. Ils vont diriger ce pays si on leur laisse la possibilité. On ne peut pas laisser faire ça. Ce n'est pas une guerre avec des armes. C'est une guerre technologique. Et si on ne s'en occupe pas maintenant, je pense qu'on en viendra aux armes. Et je ne veux pas avoir ça.
La route file droit vers le sud. De chaque côté, des champs de maïs. Le maïs qui a été planté tard cette année du fait des inondations. Nous allons à Winnebago où se trouve une usine d'éthanol. Et cette usine vient de fermer ses portes.
Je suis Jacob Skulajek, administrateur de la ville de Winnebago.
L'usine Corn Plus a suspendu ses activités. Quel est l'impact pour votre ville ?
Ils sont raccordés à notre réseau d'égouts et je crois qu'ils payaient 20 000 dollars par mois pour ça. Donc cela aura un énorme impact pour les finances de la ville et au-delà, c'est une grosse perte pour la communauté. C'est une coopérative détenue par les exploitants et beaucoup de fermiers vont être affectés. C'est l'un de nos plus gros employeurs. Tous ne vivent pas à Winnebago, mais ils dépensent leur argent ici. Cela a aussi des conséquences sur l'activité économique.
Vous avez eu des explications sur les raisons de leur fermeture ?
Il n'y a pas de marché pour l'éthanol. Les exemptions que le président a accordées aux raffineries limitent les ventes. J'espère que quelque chose sera fait au sujet de ces exemptions pour donner une chance aux usines d'éthanol et éviter d'autres fermetures.
Juste en face de l'usine Corn Plus se trouve l'exploitation de Doc Jenkins. Il élève 5000 porcs, produit du maïs pour les nourrir, mais revendait son surplus à Corn Plus, dont il était actionnaire depuis 20 ans.
J'espère qu'ils vont trouver un acquéreur parce que c'est crucial pour le marché local. Ils achetaient beaucoup de maïs, cela maintenait les débouchés pour nous. Donc oui, cela va avoir un gros impact. Je suis triste, j'ai des parts dans l'entreprise, je vais les perdre. J'aurais aimé que l'usine continue à tourner, mais quand les prix de l'éthanol sont trop bas, les affaires sont mauvaises.
Malgré tout, Doug reste un fervent partisan de Donald Trump.
J'espère juste qu'il sera réélu. On a besoin de 4 ans supplémentaires. L'administration précédente a semé un tel bazar. Il s'occupe de beaucoup de choses. Rendre sa grandeur à l'Amérique demande beaucoup de travail.
D'autres fermiers me disent que leurs affaires périclitent.
Je ne sais pas. Ils doivent manquer de confiance en lui. Les prix sont bas, mais il faut avoir la foi et faire de son mieux. Pour moi, Trump est le meilleur président qu'on a eu depuis des années. Les libéraux veulent instaurer le communisme en Amérique et dès que quelque chose ne va pas, ils accusent Trump parce qu'ils veulent le communisme, c'est aussi simple que ça.
Sur la route entre Winnebago et Marshall, la radio évoque les nouvelles hausses de taxes décidées par Trump et les mesures de rétorsion de la Chine qui affectent en particulier cet état agricole. Et c'est vrai que quand on roule ici sur ces routes du Minnesota, ce ne sont que champs à perte de vue, encore d'un vert tendre, quelques semaines avant la récolte. Nous arrivons chez Don DeLong.
Content de vous rencontrer.
Vous avez votre casquette Trump.
Tous les jours.
Et vous avez des posters de Trump et Pence. Big flags.
Oh oui, on est bénis de les avoir. S'ils n'étaient pas là, le pays serait fichu.
Vous croyez ?
Oh oui, absolument. Merci mon Dieu pour Trump. Je prie pour lui tous les jours.
Donc vous ne blâmez pas l'administration pour la guerre commerciale ?
Non, je ne blâme pas le président pour la guerre commerciale. En fait, je le complimente de s'être attaqué au problème. Nous, on fait du bétail. Parfois, le marché s'écroule et on ne veut pas vendre, donc on sait ce que c'est les négociations. Parfois, ce sont de longues et dures batailles. Les Chinois sont rudes, mais je ne pense pas qu'on pourrait trouver quelqu'un de meilleur pour négocier. Je suis très confiant qu'il parviendra au meilleur accord possible.
Pourquoi pensez-vous que Trump est la meilleure personne pour négocier avec la Chine ?
Parce que je regarde son parcours. Il sait comment négocier, comment gérer un business, comment gagner de l'argent. J'aime ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il est intelligent. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Côté démocrate, il n'y en a pas un avec qui je ferai des affaires ou même avec qui j'irai à la pêche.
Don propose de nous montrer son exploitation. Vous avez un fusil ?
Oui, on ne sait jamais ce qu'on peut voir. Je l'utilise souvent pour les putois, les lapins, les ratons laveurs. On ne sait jamais qui essaie de voler mon maïs.
La position du Parti républicain sur les armes à feu compte dans l'engagement de Don derrière Donald Trump. Mais aussi les déréglementations que le président a engagées, notamment dans le domaine de l'environnement.
Il y a tant de réglementations, si tu veux toutes les suivre, tu ne sors jamais travailler. Parce qu'il y a tellement de règles à suivre, comme celles sur l'eau, qui sont terribles.
Mais certaines de ces règles ont été conçues pour protéger l'environnement.
On veut tous protéger l'environnement, mais non ces règles qui ont dépassé les bornes. C'est juste totalement ridicule. Ah, voici mon fils, Eddie.
Votre père est un fervent soutien de Donald Trump. Vous aussi ?
Oui, c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui fait avancer les choses et fait ce qu'il dit au lieu de dire ce que les gens veulent entendre. J'aime la politique qu'il met en place. L'Agence de protection de l'environnement est celle qui contrôle. La pollution était hors de contrôle. Lui prend des décisions qui ont du sens plutôt que de mettre en place des règlements qui, pour la plupart, manquent de bon sens.
Donc vous êtes content de voir le président tout déréguler ?
Oh oui, dites s'il vous plaît au président Trump qu'il y a des fermiers heureux ici et qu'on remercie Dieu tous les jours qu'il se bat pour nous. As we sat on the front
porch of that old gray house where I was born and raised. L'administration Trump a débloqué 12 milliards de dollars en 2018 pour atténuer les dégâts causés au secteur fermier par la guerre commerciale et a promis 16 milliards supplémentaires cette année. Une aide bienvenue mais insuffisante. Selon les calculs du Farm Bureau, le principal syndicat agricole du pays, les faillites d'exploitation agricole ont augmenté de 13% par rapport à l'année dernière et la dette des fermiers qui avait atteint en 2018 un niveau inégalé depuis plus de 30 ans devrait augmenter encore de 4% en 2019.
Guerre commerciale, les fermiers en première ligne, un grand reportage dans le Minnesota d'Anne Corpet, réalisation Pierre Chaffonjon, à retrouver également sur RFI.fr.